Je vais donc vous présenter ici Daniel Cohen. Daniel Cohen est un économiste. Peut-être serez-vous surpris de voir une conférence d'économie dans ce module consacré à la violence et à des thèmes qui sembleraient relever plutôt de la société. C'est une façon de faire le lien entre l'économie et les sciences sociales. Et je pense que Daniel Cohen ne rejettera pas cette filiation, bien que qu'elle soit continuellement problématique. Je voulais donc vous présenter en quelques points cet économiste connu déjà de beaucoup d'entre vous. Alors, Daniel Cohen, c'est d'abord un parcours universitaire impeccable, École normale supérieure, agrégation de mathématiques, doctorat d'économie, agrégation d'économie. Il est professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mais c'est aussi un chercheur. Il est chercheur au CEPREMAP, ce centre de recherche de mathématiques appliquées à l'économie. Il est également co-directeur du programme de macroéconomie du Center for Economic Policy Research, le CEPR, à Lyon, à Londres. Au fond, quand on a dit ça, on n'a fait que camper la silhouette d'un fort en thème et fort en maths parmi les plus brillants. On n'a pas encore dit grand-chose. Je pense que la suite est peut-être plus significative encore. Le curriculum des jalons de Daniel Cohen, qui est encore un homme jeune, fait apparaître notamment un économiste de terrain, si l'on peut parler de terrain en macroéconomie, qui est évidemment quelque chose qui semblerait un peu théorique. On le trouve dès le début ou le milieu des années 80 comme consultant de la Banque mondiale pour la dette extérieure, et il restera à ce poste pendant près de 15 ans, multipliant les missions un peu partout dans le monde. Il est ami de Jeffrey Sachs, cet économiste américain qui s'est rendu célèbre pour ses conseils aux pays en transition, soit frappés par la crise de la dette des années 80, soit encore après par la transition des économies socialistes vers l'économie de marché. Daniel Cohen, bien que français et tout à fait impliqué dans la réalité française, est aussi un ami de ces économistes qu'on pourrait appeler bostoniens, soit du MIT, soit de Harvard, qui ont pour caractéristique commune d'avoir non seulement la tête dans leur laboratoire, mais aussi de vouloir participer à la vie publique de différentes façons et au débat qui agite nos sociétés. C'est par exemple le cas d'un Paul Krugman, qui est devenu un polémiste mondialement célèbre, de Larry Summers, qui est aujourd'hui secrétaire au Trésor des États-Unis, ou encore de Stanley Fischer, vice-directeur du Fonds monétaire international. Alors, Daniel Cohen, comme ses amis, je dirais, n'appartient pas à une école. Quand on lui demande de se définir, il dit que lui, comme ses contemporains, sont surtout animés d'un désir d'intelligence pratique. Il ne se sent pas, à proprement parler, l'élève d'un maître, même si il a été l'élève de Tom Sargent, l'un des théoriciens des anticipations rationnelles. Mais il est plutôt l'enfant d'une génération, d'économistes actifs à partir du début des années 80, qui, arrive au moment où les grandes théories, les grandes querelles théoriques sont à peu près épuisées, et où il s'agit de penser les problèmes économiques et sociaux, d'ailleurs, qui se présentent à notre monde contemporain, les uns après les autres. Les économistes de cette génération empruntent absolument sans complexe aux uns et aux autres, aussi bien à Gary Becker que Albert O. Hirschman, Milton Friedman ou James Tobin. Au fond, il s'agit, quand surgit un problème, d'aller chercher dans toutes les boîtes à outils disponibles des outils pour penser ce problème et aider les décideurs à le résoudre. Donc les problèmes qui se sont présentés aux gens de cette génération, eh bien, en économie internationale, ça a été successivement la crise de la dette qui a frappé les économies en développement au début des années 80, ensuite la longue et pénible découverte d'un chemin pour rééchelonner ces dettes, puisque ça a occupé vraiment toutes les années 80, comment permettre aux pays à la fois de rembourser leurs dettes, mais aussi d'avoir de l'argent nouveau pour continuer leur développement, et comment réorienter leurs économies pour sortir de ce qui semblait bien à un moment être une sorte d'impasse. Ensuite, il y a eu les problèmes des marchés secondaires, puisque toutes ces créances ont été recyclées par les marchés financiers qui prenaient de plus en plus d'ampleur. Ensuite, le rôle du Fonds monétaire international, à la fois indispensable mais très critiqué. C'est une organisation qui était obligée, au fond, d'inventer sa propre action au fur et à mesure que se présentaient les problèmes, en affrontant continuellement des critiques, d'ailleurs souvent justifiées. Et puis, dans les années 90, les problèmes sont peut-être plus centrés sur l'Europe, puisque l'Europe, confrontée en son sein au cataclysme pratiquement que constitue la chute du mur de Berlin et la tentative de rapprochement des deux parties de l'Europe séparées depuis près de 50 ans, l'Europe va se mettre va essayer d'inventer une nouvelle voie avec la monnaie unique, mais elle va être aussi confrontée à un chômage de masse, et Daniel Cohen va beaucoup travailler à la comparaison du chômage européen, et notamment français, et du chômage des États-Unis. Comme chercheur, Daniel Cohen s'est aussi posé des problèmes théoriques, comme par exemple les problèmes de la crédibilité ou encore de l'engagement vis-à-vis de soi-même. On parle souvent des engagements dans les contrats vis-à-vis des autres agents, mais finalement, quand un consommateur s'engage vis-à-vis de lui-même, par exemple à arrêter de boire ou de fumer, l'économie traditionnelle ne sait pas très bien penser cela, et au fond, elle ne sait pas répondre à la question pourquoi Ulysse s'attache-t-il au mât plutôt que d'aller vers les sirènes. Ça ne correspond pas à l'idée que se font les économistes de la recherche du plaisir maximum ou de l'utilité, comme ils disent. Je terminerai par un aspect peut-être plus connu de la carrière de Daniel Cohen, plus connu du grand public. Daniel Cohen est un grand communicateur, c'est quelqu'un qui parle aux gens, qui écrit, qui a écrit trois livres très importants qui ont jalonné la décennie 90, Les infortunes de la prospérité, dans laquelle il analyse notamment l'épuisement des formules de l'État-providence mise en place dans l'après-guerre, en 97, Richesse du monde, pauvreté des nations, qui examine un peu les paradoxes du développement et la dynamique des inégalités entre nations et au sein des nations, dont nous retrouverons un certain nombre de thèmes dans cette conférence. Enfin, cette année, Nos temps modernes, chez Flammarion, qui examine les changements du travail dans l'ère post-fordienne. C'est moins la fin du travail que sans doute la dissémination du travail absolument dans toutes les sphères de la vie qui serait la caractéristique de notre monde moderne. Ce sont donc des livres qui parlent au grand public, mais sans aucune concession vis-à-vis de la qualité de la recherche qui en fait le soubassement. Donc ce sont des livres qui sont aussi à la pointe de de la pensée économique d'aujourd'hui. Enfin, Daniel Cohen écrit dans les journaux, intervient dans les débats, à la télévision, à la radio. Son but, au fond, si je peux me permettre de le résumer, c'est peut-être de dédramatiser l'économie, qui est un champ de la connaissance qui souvent suscite des peurs irrationnelles, reliées entre eux des phénomènes qui n'ont pas de lien apparent, et tout ça dans un seul but, donner du sens. Daniel Cohen.
Bon, merci Sophie. On pourrait continuer comme ça. Moi, je préfère t'entendre que de parler. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un parler de moi à une tribune. Donc, c'est très, très émouvant. J'espère que ça ne va pas m'empêcher de m'adresser à vous maintenant directement. Et donc, parler de ce sujet, l'évolution des inégalités. Dont on peut dire, bon, très simplement, et ce sera le plan que je vous proposerai rapidement, c'est qu'elle a deux axes, très distinctes et qu'on a souvent tendance à confondre. Et en effet, pour partie, ces axes se rejoignent, mais pour partie seulement. Le premier axe, qui est peut-être la question la plus importante, disons simplement à l'échelle de l'histoire, c'est l'axe qui sépare les pays du Nord et les pays du Sud. C'est la question de savoir pourquoi il y a des nations riches et des nations pauvres, et de savoir aussi, bien entendu, et peut-être surtout, si cette distinction, elle est irrémédiable, ou si au contraire, c'est une phase de l'histoire qui peut-être, avec le temps, va s'estomper. Et puis, deuxième axe, celui de l'inégalité qui existe au sein des nations riches elles-mêmes. Il y aurait au fond aussi un troisième axe, évidemment, c'est les inégalités au sein des nations pauvres, mais ça je n'en parlerai que très peu et seulement de manière accessoire. Inégalité au sein des nations pauvres, des nations riches qui s'est développée au cours des 20 dernières années, à peu près en même temps que se produisait aussi ce phénomène de mondialisation qui a fait apparaître sur le devant de la scène le premier thème que j'ai dit et qui fait aussi souvent donc penser qu'il y aurait comme un jeu de entre ces deux problèmes. Et encore une fois, par anticipation, ce jeu de face communicant, il existe, mais très très partiellement, et ce sera l'un des enjeux de la discussion que de savoir jusqu'à quel point on peut le tenir pour important. Alors je vais commencer par directement ce premier aspect, encore une fois je pense à l'échelle de l'histoire le plus important, qui est cet énorme schisme qui existe entre les nations riches et les nations pauvres, en commençant par les nations pauvres elles-mêmes. On peut dire très simplement qu'en un espace de temps extrêmement bref, qui va de la fin des années 70 au début des années 90, d'immenses blocs de population sont apparus sur le devant de la scène économique mondiale. Je pense à la Chine, je pense aux pays de l'ex-URSS, on peut penser aussi à l'Inde par certains aspects, qui jusqu'au début des années 80 était pour l'essentiel soustrait à ce qu'on va appeler, pour simplifier, le capitalisme mondial. La Chine faisait très peu de commerce, un commerce qui était limité au strict minimum avec les autres nations de la planète. L'Inde aussi était une économie plus ouverte, mais pour l'essentiel extrêmement protectionniste, fermée au reste du monde. Et puis les pays de l'ex-URSS aussi avaient un système très protectionniste. Et on pourrait rajouter, en fait, beaucoup d'autres pays. Beaucoup de pays en Amérique latine étaient coupés du commerce mondial jusqu'à un très, très grand point. Les pays du Moyen-Orient, les descendants, les héritiers, si on peut dire, de l'Empire ottoman, étaient eux aussi, pour l'essentiel, inscrits dans une logique de semi-autarcie. Ce qui fait que les problèmes qui pouvaient affecter ces pays de pauvreté relative étaient beaucoup plus souvent pensés comme l'affrontement entre des problèmes idéologiques, une certaine façon de concevoir la prospérité, parfois beaucoup plus que dans des termes de comparaison, terme à terme, de ce qu'était le niveau de développement de ces pays comparativement à ce qu'était le niveau de développement des pays riches. Et c'est depuis le début des années 80 que la question de la comparaison entre ces niveaux de développement s'est posée dans toute sa force, et d'autant plus fortement que ces pays ont voulu inscrire leur dynamique de développement dans une dynamique beaucoup plus ouverte, comme je disais, que par le passé. Alors, la question que les économistes se sont posée, ils se la sont toujours posée jusqu'à un certain point, mais avec beaucoup plus de force dans les années 80, du fait de ce que je viens de dire, c'est: est-ce que ces pays, maintenant qu'ils sont inscrits dans une logique qui est celle du capitalisme mondial, qui est jusqu'à un certain point la même que celle que connaissent les pays riches eux-mêmes, maintenant que les règles du jeu économique tendent à s'harmoniser entre les nations les plus riches et les nations les plus pauvres, est-ce qu'il y a un espoir que les nations les plus pauvres puissent rattraper les nations les plus riches? Ou bien est-ce que c'est un mythe de plus? Est-ce que la globalisation, loin de permettre une péréquation à terme des niveaux de revenus des différents pays de la planète, va en contraire renforcer les inégalités, cantonner les plus pauvres à des tâches subalternes qui permettraient aux premiers, les nations les plus riches, d'exploiter sous une autre façon ces nations les plus pauvres? Ce sont des problèmes anciens, ce sont des problèmes qui naissent en fait dès le début de l'aventure capitaliste mondiale, et je crois que ça vaut la peine de faire une seconde, un retour en arrière, sur ce qu'a été la première mondialisation du capitalisme, en tout cas récent, celle qui s'est produite au cours du XIXe siècle, qui est une période au cours de laquelle, à peu près dans les mêmes termes, la question des effets de la mondialisation sur les nations les plus riches et les nations les plus pauvres s'est posée, et d'une certaine façon, l'ombre portée de ces débats nés au XIXe siècle sur les politiques économiques du XXe siècle et sur la manière dont aujourd'hui on appréhende ces questions reste extrêmement prégnante, même si c'est ce que je vais essayer de dire maintenant, eh bien, pour partie, il y a une erreur de raisonnement à projeter ce qui s'est passé au XIXe siècle dans les questions qui se posent aujourd'hui. Lorsqu'au début du XIXe siècle, les nations industrielles, et en particulier la première d'entre elles, l'Angleterre, s'est interrogée sur la question de savoir si pour elle-même, c'était une bonne chose de faire du commerce avec les autres nations ou pas, toutes sortes de débats qui sont très proches de ceux qu'on a aujourd'hui se sont posés. Et en particulier, la question pour une nation aussi riche que l'Angleterre, aussi productive, comme on dirait aujourd'hui, que l'Angleterre à l'époque, était de savoir qu'est-ce qu'elle pourrait bien gagner à faire du commerce avec des nations qui, dans à peu près tous les champs d'activité auxquels elle puisse penser, étaient moins productives qu'elle-même. Lorsqu'on pensait la question à l'époque, c'était essentiellement autour de deux axes. Est-ce que l'Angleterre devait continuer d'être à la fois une grande nation agricole qu'elle était, disons, pour simplifier, depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, ou bien est-ce qu'elle devait abandonner ces activités-là pour être une nation exclusivement industrielle qui allait profiter, eh bien, de la force de frappe que lui donnait la révolution industrielle dont elle a été le siège de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à, disons, le milieu du XIXe siècle. Et lorsque la question s'est posée en ces termes, les deux termes, disons, de l'opposition ont été présents. D'un côté, Ricardo qui disait oui, Ricardo, donc le grand économiste britannique du début du XIXe siècle, qui disait oui, l'Angleterre doit abandonner un certain nombre de secteurs pour se spécialiser dans les secteurs où, relativement aux précédents, elle est meilleure. Et d'autres, comme Malthus, qui disaient « pas du tout, l'Angleterre est une grande nation dans ces deux domaines, il est complètement idiot que des paysans anglais cessent de produire des choses où ils sont meilleurs que d'autres paysans pour s'en remettre à d'autres qui seront moins productifs et qui ne donneront pas la même richesse ». Alors là, il y a un débat extrêmement théorique, très simple, qui a été tranché, pour simplifier, à l'avantage de David Ricardo, qui va produire une théorie dite des avantages comparatifs, où il va dire, eh bien, imaginons, je transcris dans les termes d'aujourd'hui, quelqu'un qui soit un très grand professionnel dans un domaine, je ne sais pas, on va prendre de Michael Jackson, est-ce que Michael Jackson va aussi tondre sa pelouse? Bon, ça, je prends cet exemple d'un livre d'économie qui a beaucoup de succès aux États-Unis, qui est dû à un bonhomme qui s'appelle Greg Mankiw, et qui dit, il est tout à fait possible que Michael Jackson soit un très bon jardinier, peut-être qu'il est un meilleur jardinier que celui à qui il va demander de tondre sa pelouse. Mais une fois qu'on a posé la question comme ça, on comprend bien que ça serait complètement ridicule qu'il prenne une partie de son temps très précieux dans d'autres activités à tondre une pelouse que d'autres, peut-être moins bien, mais pour beaucoup moins cher, feraient à sa place, lui permettant de maximiser sa richesse en se spécialisant dans l'activité où il est le meilleur. Eh bien, cet argument des avantages comparatifs, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la division du travail ne signifie pas qu'on abandonne des tâches à ceux qui sont meilleurs que vous-même. Il veut dire qu'on abandonne des tâches à ceux qui, relativement à l'activité où vous êtes le meilleur, eh bien, pourront vous aider à libérer du temps pour que vous puissiez gagner le maximum d'argent dans cette activité-là où vous êtes encore meilleur que les autres. Traduction pratique, les Anglais n'ont pas besoin d'être à la fois une nation industrielle et une nation agricole, ils n'ont qu'à être une nation agricole, avec la richesse que leur donne leur puissance industrielle, ils achèteront des biens agricoles du reste du monde. Certes, ce sera une activité qui sera faite par des gens moins efficaces qu'eux-mêmes, mais des gens qui seront moins bien payés que les paysans anglais s'ils devaient, au lieu d'être industriels, rester dans les champs. En un mot, la division du travail que propose David Ricardo au monde, c'est l'industrie aux Anglais, et puis des activités qui, à l'époque, sont essentielles, les activités agricoles, aux autres nations avec lesquelles l'Angleterre va commercer. Alors, dans un premier temps, les Anglais eux-mêmes, qui comptent une population agricole extrêmement importante, vont être réticentes à cet argument, indépendamment même de la portée évidemment pratique, qui est d'expliquer aux paysans qu'ils doivent quitter leurs terres pour aller dans les villes. Mais l'argument théorique lui-même résonne comme quelque chose de bizarre. 60% de la population est paysanne, et on explique qu'il faudrait qu'ils quittent les champs où ils sont meilleurs que les autres agriculteurs du monde pour rejoindre les villes. L'argument théorique mettra du temps à se faire entendre. Et puis l'argument pratique, évidemment, sera dirimant. Est-ce qu'on n'est pas en train de priver des paysans de leurs terres pour leur promettre de la monnaie de singe, celle qui est le salaire qu'éventuellement ils pourraient gagner dans les villes? Bon, Il y a toutes sortes de débats qui vont se produire en Angleterre. Et finalement, eh bien, l'Angleterre va basculer dans le camp de David Ricardo. Elle va devenir une nation industrielle. Elle va ouvrir totalement son commerce mondial à la règle du libre-échange, c'est-à-dire qu'elle va laisser librement les produits agricoles envahir les marchés anglais, ruinant les paysans qui vont se trouver portés vers les villes où ils vont devenir les ouvriers qui vont constituer la classe ouvrière anglaise de la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors je reviens à mon propos, du point de vue des pays qui vont commercer à l'Angleterre, ça veut dire, à l'inverse, abandonner les activités industrielles, puisqu'on va importer les produits anglais, et au contraire, se spécialiser dans ces activités que les Anglais vont abandonner, à savoir les produits agricoles ou tout simplement toutes sortes de produits miniers, tropicaux, tout ce que vous voudrez. Dans un premier temps, les autres pays européens qui sont en retard sur l'Angleterre sont tentés par le libre-échange, puisque eux-mêmes ont une forte population rurale, à qui on offre donc des marchés additionnels, les marchés anglais, et que, naturellement, en contrepartie, ces paysans de l'Europe continentale pourraient avoir accès à des produits industriels bon marché, ceux-là même qui sont fabriqués par les Anglais. Donc la question se pose en Europe, et puis après quelques hésitations, où l'économie joue un rôle mince, où la politique, où la perception du fait que l'industrie est l'avenir de l'homme et qu'abandonner l'industrie aux Anglais, eh bien, c'est perdre du terrain par rapport à un domaine qui va faire la puissance des pays plus tard, eh bien, les pays européens, l'un après l'autre, vont devenir protectionnistes, fermer les frontières au commerce anglais. Ce qui fait que les pays qui vont se trouver les acteurs de cette première globalisation, ce seront, pour simplifier, tous les pays qui seront sous la loi du Commonwealth, c'est-à-dire l'Inde, puis la Chine, enfin jusqu'à un certain point, elle ne faisait pas partie du Commonwealth, mais elle va subir la loi du libre-échange anglais, qui vont se retrouver en vis-à-vis de l'Angleterre dans un jeu où ils vont abandonner leur artisanat et les premiers moments de leur propre industrialisation pour se spécialiser dans les tâches que l'Angleterre ne veut plus fabriquer elle-même. Alors je raccourcis tout ça pour dire qu'au bout du compte, à l'échelle d'un siècle, pardon, des pays qui avaient à peu près le même niveau de vie que l'Angleterre au début du XIXe siècle, c'est à peu près c'est le cas de l'Inde, de la Chine, qui était à 30 ou 40% de revenus derrière les Anglais au début du XIXe siècle ou à la fin du XVIIIe siècle, vont se retrouver à la fin du XIXe siècle relégués dans des activités tropicales, agricoles, qui vont multiplier par 10 l'écart de revenus, les inégalités entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Alors que les Anglais vont profiter, en même temps que les autres pays européens qui auront eu rétrospectivement la sagesse de mener ces politiques protectionnistes que j'ai dit, eh bien, les Anglais et les autres pays européens, et bientôt les États-Unis, qui eux aussi vont mener des politiques protectionnistes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, les pays européens et alliés vont creuser un écart qui va être de 1 à 10 entre les pays, avec les pays qui vont devenir les pays du tiers-monde, qui vont devenir les pays les plus pauvres. Alors, cette expérience traumatisante, évidemment, va avoir une influence considérable tout au long du XXe siècle, puisque au fur et à mesure que ces pays vont gagner leur indépendance politique, eh bien, très naturellement, très spontanément, tous, pratiquement sans aucune exception, vont tout simplement dire... pardon, vont tout simplement dire, eh bien, naturellement, la voie de développement la plus favorable en ce qui nous concerne, c'est celle que les pays européens eux-mêmes, d'Europe continentale, eux-mêmes ont adoptée au XIXe siècle, c'est-à-dire la voie du protectionnisme. Et l'un après l'autre, tous ces pays vont choisir des politiques économiques autarciques, semi-autarciques, essentiellement protectionnistes. L'Empire ottoman, quand il se détruit, la Turquie va devenir protectionniste. L'Amérique latine va essayer autant qu'il est possible de mener une politique protectionniste par rapport aux États-Unis. La Chine, la révolution communiste, va en faire une nation en pratique coupée du reste du monde. Et les pays de l'ex-URSS, pour d'autres raisons idéologiques que celles que je dis, mais en pratique, à l'instar des autres pays en voie de développement de son époque, va choisir une politique fermée du reste du monde. Ce qui fait qu'en 1975, comme je le disais en introduction tout à l'heure, quand on fait l'inventaire des pays qui participent au commerce mondial, il y a les pays riches eux-mêmes, Europe, États-Unis, avec un seul nouveau venu en réalité qui est le Japon au cours du XXe siècle, et tous les pays qui au XIXe siècle avaient subi la loi du libre-échange britannique se sont retrouvés du côté de ce nouvel axe de politique, des politiques protectionnistes et autarciques. Tous, sauf quelques exceptions. Quelques exceptions qui tiennent à des raisons tout à fait particulières, presque dans chacun des cas des raisons politiques. Ce sont les fameux quatre dragons d'Asie, la Corée, Taïwan, Hong Kong et Singapour, qui, dans trois cas sur cas, vont choisir une politique exactement inverse, une politique d'ouverture au commerce mondial, pour des raisons politiques. La Corée du Sud, parce que, évidemment, à cause de la Corée du Nord, elle va vouloir s'ancrer autant qu'il est possible dans l'espace du capitalisme américain. Taïwan, pour exactement la même raison vis-à-vis de la Chine populaire. Hong Kong, pour la même raison que Taïwan vis-à-vis de la Chine populaire. Et Singapour, tout simplement, parce que c'est une petite ville de 3 millions d'habitants qui n'a pas d'autre choix, évidemment, pour prospérer que de s'inscrire dans la logique du commerce mondial. Ça n'aurait pas eu de sens de fabriquer un marché intérieur avec 3 millions de personnes. Donc ces quatre exceptions jurent dans un tableau où, pour l'essentiel, les gens choisissent une stratégie protectionniste. Et ce sont par ces quatre exceptions que le basculement du monde va se produire à la fin des années 70 et au début des années 80, puisque lorsque, au moment où on fait le solde des comptes de ces différentes politiques, au moment de la grande crise des années 70, eh bien, lorsqu'on compare l'état de développement économique des nations qui ont choisi le protectionnisme à ces quatre petits moignons qui ont choisi la voie de l'ouverture, alors le constat est sans appel, il est encore pire que celui qu'on avait fait à la fin du 19e siècle. Je vous avais dit que c'est un rapport de 1 à 10 qui s'était creusé entre le début du 19e et la fin du 19e, du fait en partie des politiques qui avaient été choisies à l'époque. C'est un rapport de 1 à 50 qui, par certaines estimations, s'est creusé entre le début du 20e siècle et la fin du 20e siècle. Pour l'ensemble de ces nations, que je mets ici en vrac, Inde, Chine, ex-URSS, ex-pays satellite de l'URSS, qui se retrouvent dans un état de retard économique encore plus considérable, si c'était possible, qu'elles ne l'avaient été à la fin du XIXe siècle. À l'inverse, ces quelques petites nations qui ont choisi la voie d'une inscription directe dans le commerce mondial se retrouvent en fait aux portes de la prospérité des pays les plus riches. Un pays comme Singapour, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale était à 95% composé de gens illettrés, qui n'avait aucune base industrielle, puisque c'est un pays, si on ose dire, une ville qui servait en fait d'entrepôt aux Anglais dans son commerce, dans le commerce de l'Angleterre avec la Malaisie, c'est-à-dire que c'est un pays, on ne peut même pas dire qu'il y avait un certain héritage d'une culture artisanale ou autre, eh bien, se retrouve dans les années 80 au même niveau de richesse par habitant que le Canada, ce qui signifie, entre autres choses, c'est quand même une ruse de l'histoire assez plaisante, que Singapour est, dans les années 80, plus riche que son ancien maître, l'Angleterre. Donc, évidemment, le diagnostic fait au début du XXe siècle sur les mérites du protectionnisme est totalement remis en cause à la fin du XXe. Et on s'interroge sur la question de savoir si, au fond, une stratégie ouverte, régulée, maîtrisée ne serait pas une meilleure chose. Et en même temps qu'on pose la question, on y répond. L'un après l'autre, dans les années 80, l'ensemble des pays qui avaient choisi une stratégie protectionniste vont choisir une stratégie beaucoup plus ouverte que par le passé. Alors, arrivé à ce point-ci, évidemment, la question, c'est de savoir, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ce qu'on a observé pour ces quelques pays au cours du XXe siècle pourrait, on va dire, à l'échelle du XXIe siècle, se répéter ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'à la fin du XXIe siècle, les inégalités entre les nations du monde seront résorbées ? Est-ce que c'est une utopie imbécile, naïve, ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut dire qu'il a un coefficient de probabilité d'avènement qui n'est pas nul, qui est même significatif? Alors, il y a autant de points de vue que d'économistes, certainement, sur cette question, mais surtout, il y a autant de points de vue que de moments où on pose la question. Dans les années 80, et plus encore dans les années 90, jusqu'à la crise asiatique de 1997, le consensus général, disons, qui a traversé la profession, c'était de dire que oui, on peut imaginer un phénomène de rattrapage des nations les plus pauvres, des nations les plus riches, pardon, par les nations les plus pauvres. À preuve, et sans rentrer dans de grandes démonstrations, le taux de croissance que ces pays ont connu dans les années 90. Lorsqu'on prend l'Asie, et je vais dire bien entendu dans un instant quelques mots de l'Afrique et des quelques grandes poches de pauvreté qui en Asie aussi, bien sûr, continuent d'exister, comme au Bangladesh, mais quand on prend l'Asie dans son ensemble, eh bien, on observe des taux de croissance absolument considérables, des taux de croissance parfois à deux chiffres, supérieurs à 10% l'an. La Chine, en particulier, a cru dans les années 90 à un rythme moyen de 10% l'an. L'Inde a cru à un rythme moyen de 7% l'an. Les pays qui vont rejoindre le sillage des quatre dragons, comme la Malaisie, Taïwan, l'Indonésie, vont croître également à des rythmes proches de 10% l'an. Et donc, au fond, on se dit que la convergence, hein, c'est le terme générique que les économistes vont utiliser, la convergence est possible. Et quand on regarde à l'intérieur de ces nations, pourquoi la convergence est possible ? Eh bien, c'est tout simplement parce que le ressort essentiel de la croissance de ces pays est le même que celui qui explique la croissance des quatre dragons dans les années 50 et les années 60 et 70, à savoir une stratégie qui s'inscrit dans le commerce mondial, mais qui s'appuie sur ce qu'on va appeler des fondamentaux extrêmement solides, que sont premièrement un taux d'épargne très élevé, qui signifie un taux d'accumulation du capital matériel lui-même très élevé. Le taux d'épargne à Singapour est proche de 40%, c'est énorme. Eh bien, c'est le même taux d'épargne que celui qu'on trouve, par exemple, en Chine. Donc, une propension à épargner qui est très élevée et qui fait que du jour au lendemain, on peut construire 3, 4, 5 immeubles, des usines, sans buter sur une richesse financière insuffisante. Deuxième ressort, également très important, ces pays ont réussi à scolariser en masse leur population. Quand je dis réussi, ça veut dire qu'ils ont réussi à passer le double obstacle, le double écueil que constitue une base intellectuelle au départ très faible. Scolariser en masse l'Indonésie quand tout le monde au départ est analphabète, c'est compliqué, puisque qui va apprendre qui ? Eh bien, ce cheminement complexe, les Indonésiens l'ont suivi. Et deuxièmement, et peut-être surtout, construire une éducation de masse, ça veut dire politiquement être capable de rassembler la population autour de ce projet, être capable de mobiliser les ressources nécessaires pour y parvenir. Je m'arrête sur ce point un instant puisque ça nous rapproche du thème des inégalités. Lorsqu'on compare deux pays asiatiques que sont d'un côté la Corée et de l'autre les Philippines, on voit que l'un a beaucoup mieux réussi que l'autre, la Corée. Pourquoi ? Eh bien, alors que, disons pour simplifier, dans les années 60, ce sont des pays qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques, le même revenu par tête, le même taux d'urbanisation, le même taux de à peu près tout ce que vous voudrez. Ce sont deux pays qui étaient d'une certaine manière identiques pour l'économiste statisticien. L'un a réussi, l'autre pas. Alors certains économistes disent, ça montre qu'il y a des miracles, que l'histoire n'est pas déterministe, elle n'est jamais écrite. Mais d'autres économistes se sont penchés un peu plus précisément sur la question et ils ont découvert un axe très intéressant, qui est que les Philippines, qui est un pays d'Asie, mais qui est un peu l'ombre portée des pays d'Amérique latine dans cette région du monde, était une société très inégalitaire, alors que la Corée, qui avait suivi, qui après la Seconde Guerre mondiale avait un peu exproprié tous les grands potentats qui avaient collaboré avec le Japon pendant la guerre, même chose pour Taïwan et même chose pour Hong Kong, la Corée, comme très souvent dans cette région du monde, était une nation très égalitaire. Ce qui fait qu'au moment de passer à la définition de programme public de développement, eh bien, la Corée n'a eu aucune difficulté, en effet, à scolariser en masse sa population, car elle n'a pas été soumise aux conflits redistributifs qui existent dans les autres pays où les riches veulent une école pour riches, les pauvres une école pour pauvres, et on ne sait pas au fond quoi faire. Et en réalité, on n'arrive à rien. Ça a été le cas de l'Amérique latine, ça a été le cas des Philippines, ça n'a pas été le cas dans toutes ces nations asiatiques, qui ont réussi parce qu'elles étaient à l'intérieur des sociétés beaucoup plus égalitaires que ne l'étaient les autres pays, que les autres nations dont je viens de parler, elles ont réussi à s'appuyer sur une scolarisation de masse qui a permis une stratégie de développement qui non seulement a permis de mobiliser les ressources financières et matérielles dont je parlais, mais aussi les ressources, disons, qualitatives liées au développement des hommes. Bon, je passe beaucoup de temps là-dessus et je vais clore ce premier passage parce que je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps dessus pour dire que si on prend la mesure du fait que le commerce mondial est beaucoup plus une manière de donner un agenda de développement qu'une manière de se substituer aux forces qui font le développement économique et qui sont ces doubles accumulations de capital matériel et de capital humain, alors on comprend pourquoi le diagnostic des économistes dans les années 90 a été très favorable à la thèse selon laquelle, pourvu qu'ils maintiennent cette double accumulation aussi intense qu'elle a été chez les quatre dragons et qu'elle est chez eux-mêmes dans les années 90, alors les pays pauvres peuvent en effet espérer rattraper les pays riches. Et les prévisions qui étaient faites ordinairement à cette époque, c'est que, bon, dans les années 2020, la Chine sera la première puissance industrielle du monde. Bon, c'est pas très compliqué avec plus d'un milliard de personnes, mais quand même. Et avec un niveau de vie par habitant proche de l'Espagne des années 80. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas hors de vue de ce que nous, on appelle aujourd'hui la prospérité matérielle. Alors, ce diagnostic, il a été, sinon brisé, du moins ébranlé par la crise asiatique de 1997, où on s'est dit, bah, c'était trop beau, regardez, c'est construit sur du sable. Et puis, bon, je n'ai pas beaucoup de temps d'en parler, donc j'abrège pour dire qu'aujourd'hui, on revient un peu en arrière. On voit qu'après une crise financière très grave, les pays d'Asie ont recommencé à croître à des rythmes très rapides, à des rythmes à deux chiffres. C'est le cas de la Corée, c'est le cas de la Malaisie et de la Thaïlande. Et j'ai lu hier, tout simplement, les prévisions de croissance pour la Chine, c'est proche de 8% l'an. Donc la croissance est repartie et au fond ce que la crise asiatique de 1997 a appris, ce qu'on savait déjà, c'est que l'ouverture commerciale qui pèse d'un grand rôle dans les stratégies de développement de ces pays ne doit pas être confondue, mélangée avec l'ouverture financière qui est d'une autre nature, qui est plus difficile à réaliser. Et comme j'ai vu dans le programme que vous avez eu un exposé sur la globalisation financière, je n'en parle pas plus. Donc, pour clore cette première partie, je crois qu'on peut accepter aujourd'hui le pronostic que les inégalités à l'échelle du monde entre les nations peuvent, en effet, à l'échelle du XXIe siècle, annuler ce qui s'est passé au cours des XIXe et XXe siècles et accepter la promesse qu'un phénomène de rattrapage sera à l'œuvre, sauf peut-être dans un certain nombre de pays victimes de pièges de pauvreté, qui font que, comme en Afrique aujourd'hui, étant trop pauvres, étant trop inégalitaires, étant dirigés par des élites qui, à la différence de celles dont j'ai parlé tout à l'heure, ne sont pas portées par un mandat clair et précis qui est celui de développer la nation dans son ensemble, eh bien, ces pays ne peuvent pas répliquer les stratégies que je viens de décrire. En un mot, pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer ? Un, elle est tellement pauvre qu'elle ne peut pas épargner. Elle est toujours proche du point où la misère et la faim font que les nations qui la peuplent basculent tout simplement dans la pauvreté absolue. Donc épargner dans ces conditions, ce n'est pas possible. Le taux d'épargne des pays africains est le plus faible du monde. Il est inférieur à 15%. Alors je vous disais tout à l'heure qu'à Singapour et dans les grands pays asiatiques, il était supérieur à 40%. Deuxièmement, la scolarisation de masse est impossible. Elle est impossible parce que, un, la pauvreté fait que c'est compliqué d'y parvenir. Et deux, ça n'intéresse pas les élites qui, lorsqu'on leur parle de scolarisation, en tout cas dans l'Afrique des années 60-70, font des grandes universités pour leurs enfants qui n'est fréquentée que par 5 à 10% de la population et non pas, comme ça a été le cas dans les pays asiatiques, des écoles primaires, secondaires, avant que d'arriver à la constitution d'universités réputées ou prestigieuses. Bon, passons maintenant à l'axe Nord-Nord. Cette montée en puissance dans les années 80-90 des pays les plus pauvres sur la scène du commerce mondial s'est accompagnée, a été plus exactement concomitante, d'une crise sociale sans précédent dans les pays les plus riches, avec, pour ces pays, une montée considérable des inégalités. Une montée des inégalités qui s'est déclinée sur plusieurs axes. Dans des pays européens, et en particulier dans un pays comme la France, elle s'est faite selon l'axe actif chômeurs, c'est-à-dire elle s'est faite selon un axe où il y a eu une grande scission, un grand schisme entre ceux qui étaient dans le marché du travail et qui pouvaient y travailler, y trouver un emploi rémunéré, et ceux qui n'y avaient plus accès. Dans les pays anglo-saxons, on va dire pour simplifier, aux États-Unis, l'axe inégalitaire était beaucoup plus simple, beaucoup plus radical, c'était entre le salaire de ceux qui étaient les plus riches et le salaire de ceux qui étaient les plus pauvres. Les écarts de revenus ont augmenté considérablement aux États-Unis, et je vais parler de cet axe-là, en me dispensant ici, parce que j'aurais vraiment pas le temps, de parler de pourquoi en France, ça a été plutôt selon l'axe du chômage que ces inégalités se sont révélées. Si on prend les données américaines sur 20 ans, on voit que les deux tiers de la population, dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90, n'ont connu aucune progression de leur pouvoir d'achat, voire ont reculé en termes de pouvoir d'achat. Si je prends l'axe le plus vulnérable qui puisse exister aux États-Unis, celui des jeunes noirs, c'est-à-dire ceux qui cumulent les deux handicaps d'être jeunes et donc nouveaux participants au marché du travail, et noirs, c'est-à-dire en bas de l'échelle sociale, eh bien leur pouvoir d'achat est revenu dans les années 80 au niveau des années 50, c'est-à-dire une régression absolument considérable. Alors, est-ce qu'on peut imputer cette montée des inégalités, cette paupérisation relative et dans certains cas absolue des plus vulnérables, du segment le plus vulnérable du marché du travail, au premier phénomène dont j'ai parlé, à savoir la participation des grandes nations pauvres du monde au commerce mondial? En théorie, ce ne serait pas aberrant. En théorie, ce ne serait pas aberrant, car dans le commerce mondial d'aujourd'hui, l'avantage comparatif des pays les plus pauvres, c'est de produire une main-d'œuvre bon marché dans le domaine industriel. Ça n'est plus, comme avant, dans le domaine agricole, évidemment. Donc, les pays pauvres vont vendre des produits bon marché qui, en général, ne vont pas réclamer de grandes qualifications pour les produits. Bien. Donc, ces produits vont être en concurrence sur le marché des pays les plus riches avec les productions de ceux qui, dans les nations les plus pauvres, dans les nations les plus riches, faisaient auparavant ce type de production. Donc, en théorie, ce ne serait pas impossible que la paupérisation des travailleurs les plus vulnérables, les moins qualifiés des pays les plus riches, vienne de la concurrence nouvelle qui leur est imposée en provenance des nations les plus pauvres. Ce ne serait pas aberrant. Donc, l'argument mérite d'être calibré. Quand on essaye de le calibrer, on voit que les ordres de grandeur ne sont pas à la hauteur de l'enjeu du problème. Lorsqu'on regarde la part du commerce des nations les plus riches avec les nations les plus pauvres, on trouve des chiffres extrêmement faibles. Moins de 3% des richesses nationales sont des richesses importées en provenance de ces nations les plus pauvres. Alors, on n'a pas le temps de faire la démonstration ici, mais c'est impossible qu'un chiffre aussi mince, qui au pire porte sur 3% de la population, explique en France 10% de taux de chômage, explique aux États-Unis une telle montée des inégalités. Chaque fois que les économistes, même a priori ceux qui étaient les plus ouverts à l'idée que cette théorie était possible, voire probable, ont cherché à la calibrer, ils se sont heurtés à l'impossibilité, compte tenu des ordres de grandeur, d'expliquer la montée des inégalités chez nous par la montée en puissance dans le commerce mondial des pays pauvres. Le commerce est une grande chose pour les pays pauvres, qui sont pauvres, c'est une petite chose pour les nations riches, parce que ça correspond à une part minime de leur propre production nationale. Il a donc fallu se résoudre à l'idée que la montée des inégalités chez nous n'était pas un phénomène importé, que c'était bien un phénomène qui provenait de l'intérieur même de nos sociétés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui brutalement explique que nos sociétés aient été le siège de telles inégalités? Bien, je crois que c'est en fait assez simple à expliquer et que de plus en plus de gens aujourd'hui en sont convaincus. En même temps que se produisaient à l'échelle du monde les phénomènes dont j'ai parlé en ce qui concerne les pays les plus pauvres, se produisaient presque par coïncidence, pas tout à fait malgré tout, je vais dire pourquoi dans un instant, mais presque par coïncidence, au même moment, une transformation considérable que, pour simplifier, on peut appeler une nouvelle révolution industrielle. En même temps que la Chine commençait à commercer avec nous, nous-mêmes, nous étions le siège de ce qu'on va appeler une troisième révolution industrielle, parce qu'elle fait suite tout simplement à deux autres, qui se sont produites respectivement à la fin du 18e et à la fin du 19e. Une révolution industrielle, en un mot, c'est quoi? C'est tout simplement un changement brutal de paradigme productif, Ça se produit, comme je viens de le dire, c'est simple, à la fin de chaque siècle. Il y en a une à la fin du 18e, première révolution industrielle, la révolution industrielle comme on l'appelle parfois. Il y en a une à la fin du 19e siècle, la deuxième révolution industrielle. Il y en a une maintenant, la troisième révolution industrielle. À chaque fois, ça se produit d'une manière extrêmement brève. Comme disait l'économiste d'origine autrichienne Schumpeter, les innovations viennent par grappes. En une petite dizaine d'années viennent quelques innovations radicales. Dans le cas du XVIIIe siècle, on a, bon, pour simplifier, la machine à vapeur, quelques innovations considérables dans le domaine de la sidérurgie et de l'industrie textile qui se produisent entre 1770 et 1780. De la même manière, la seconde révolution industrielle va voir apparaître l'électricité, le moteur à explosion, le téléphone, en une petite dizaine d'années, à la fin du XIXe siècle. De la même manière, en ce qui nous concerne aujourd'hui, les innovations radicales qui vont changer notre paradigme productif vont se produire. Alors, dans l'ordre, la première innovation, c'est celle de l'Internet. Elle est inventée en 1969 par un système qui s'appelle à l'époque l'APRANET, par le ministère de la Défense américain. Deuxième innovation radicale, le premier microprocesseur est inventé, les microprocesseurs étant, comme chacun sait, le cerveau des ordinateurs, comme on dit. Le premier est inventé par la firme Intel en 1971. Et troisième pièce, les ordinateurs de bureau qui sont mis au point par la firme Apple, le premier étant commercialisé en 1976. Donc voilà, trois dates en une petite dizaine d'années, la pièce du monde industriel dans lequel on est inventée. Alors pourquoi ce monde de la net économie, de la nouvelle économie qu'on appelle aujourd'hui, mais on va dire tout simplement ce monde de la révolution informatique, pourquoi a-t-il été le siège d'une telle montée des inégalités? Bien, on va dire très simplement qu'il a été le siège d'une montée des inégalités par rapport au monde industriel d'avant, pour une raison extrêmement simple, qui est que le monde industriel du XXe siècle, de la deuxième révolution industrielle, était fondamentalement un monde industriel qui a été pensé et conçu pour faire entrer au cœur du système productif le segment le plus vulnérable de la société. Le segment, on va dire pour simplifier, des travailleurs non qualifiés. Le monde du XXe siècle, le monde du travail à la chaîne, le monde que décrit Charlie Chaplin dans Les Temps modernes, c'est un monde qui est fait tout entier pour rendre productifs des travailleurs sans qualité, des travailleurs sans qualification, des travailleurs qui sont le plus souvent illettrés et qu'on va mettre dans un travail à la chaîne aliénant, répétitif, absurde, tout ce que vous voudrez, mais qui les rend productifs par la force du modèle industriel où on les oblige à entrer, où on les oblige, où on leur permet d'entrer. Et pour le dire simplement, ce monde du travail à la chaîne, il a été tout entier conçu pour eux parce que les bases industrielles du 19e siècle les laissaient aux marges du monde productif. Au 19e siècle, en un mot, l'organisation du travail, c'était très simple, c'était une machine à vapeur qui était mise au centre de l'usine, qui irriguait en énergie les différents ateliers, mais les ateliers eux-mêmes restaient jusqu'à un certain point la propriété intellectuelle des ouvriers, qui étaient encore comme des artisans, qui étaient, pour reprendre les mots d'un historien de cette époque, qui étaient les héritiers des grands secrets des traditions médiévales, des corporations du Moyen-Âge. Le capitaliste, c'est ce que Marx appelait l'homme aux écus, c'est quelqu'un qui les payait ou qui leur faisait une avance, d'ailleurs le plus souvent ce n'étaient pas des salariés, ils étaient payés aux pièces, pour la raison très simple qu'ils étaient les seuls maîtres de leur cadence, de leur rythme. Ce monde industriel du XIXe siècle laissait en dehors des usines les travailleurs qui ont été soit les produits de l'exode rural, au sens ricardien dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui sont rentrés dans les villes et qui n'avaient aucune expérience industrielle, qui étaient incapables de s'inscrire dans cette organisation du travail, soit, dans le cas américain, des produits de l'immigration qui arrivent en masse au début du XXe siècle et qui trouvent la porte des usines close à leur offre de travail. Le génie, si on peut dire, de Taylor et de Ford, qui sont les grands pionniers de ce monde industriel du XXe siècle, c'est de repenser radicalement l'organisation du travail pour y faire entrer les travailleurs non qualifiés qui se pressent aux portes des usines et en faire sortir les travailleurs qualifiés, entre guillemets, qui peuplent encore, jusqu'à un certain point, les usines du 19e siècle. Eh bien, le monde industriel dans lequel on est entré, c'est un monde qui va faire, dans un jeu de miroir parfait avec celui qu'on a connu au début du 20e siècle, sortir des usines ces travailleurs non qualifiés qu'on y a fait entrer et faire entrer les travailleurs qui se sont progressivement qualifiés, scolarisés tout au long du XXe siècle. On peut dire symboliquement que mai 68, c'est le moment où la nouvelle génération récuse le monde conçu au cours du XXe siècle, ne s'y reconnaît pas, récuse ce type d'organisation du travail parcellisé, hiérarchique, autoritaire, qui avait eu son heure de gloire, bien entendu, au cours du XXe siècle, pour y faire rentrer une nouvelle figure du travail qui revendique ses propres mots d'ordre, à savoir l'autonomie, l'indépendance, la capacité de se débrouiller tout seul face à des tâches complexes. Et les grands pionniers de la révolution industrielle des années 1970 sont bien souvent ces anciens baby-boomers venus de l'université qui vont essayer de concevoir un paradigme productif qui les libère de ce type d'organisation du travail qu'on a connu au XXe siècle, qui va leur permettre, disait-il, d'être autonomes par rapport à ces grandes structures, qui va permettre, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la société de l'information, de donner à chacun la possibilité d'être indépendant de la structure de commandement et de hiérarchie qui existe. Tu me dis quand même où j'en suis. C'est bon. Donc, combien 4 minutes. Donc, tout ça va faire quoi? Tout ça va faire que le monde qui était hiérarchique, mais par certains aspects égalitaire, puisque chaque partie était solidement attachée au tout, va devenir beaucoup plus délié, va devenir inégalitaire. Il va devenir inégalitaire car les destins individuels vont désormais avoir une variance beaucoup plus grande qu'ils n'avaient auparavant. Aujourd'hui, vous rentrez dans un destin, selon professionnel, qui va pouvoir varier radicalement selon que vous allez travailler chez Microsoft ou selon que vous allez travailler aux usines Renault, alors qu'auparavant, on peut dire que d'une certaine manière, il y avait une forme d'harmonisation du travail qui faisait que les hiérarchies étaient les mêmes, les rémunérations étaient les mêmes, le type d'appartenance était les mêmes et votre place dans la société était déterminée une fois pour toutes par votre sortie de l'école, mais chacun pouvait envisager une progression homothétique. Aujourd'hui, ce que j'appelais dans mon précédent livre « Un monde où les gens vont s'apparier de manière beaucoup plus sélective que par le passé » va faire que les ingénieurs ne vont plus fréquenter les ouvriers non qualifiés. Les ouvriers non qualifiés vont rester dans des entreprises de sous-traitance où ils vont balayer le soir les locaux de l'usine, mais les ouvriers qualifiés, parce que la société de l'information permet beaucoup plus d'autonomie des tâches les unes par rapport aux autres, vont rester entre eux dans des unités de production beaucoup plus homogènes que par le passé, où les formes de rémunération vont être aussi tout à fait différentes, beaucoup plus individualisées que par le passé, et vont donc connaître des destins qui vont être beaucoup plus flexibles par rapport au reste de la société. Alors, évidemment, en général, quand on parle des inégalités, on parle des inégalités entre les gens les mieux dotés culturellement et ceux qui le sont le moins, mais ce qui est important de dire, c'est que, en fait, au sein même des catégories sociales, quelles qu'elles soient, au sein des pauvres comme au sein des riches, les inégalités ont augmenté. Ce qu'on appelle les inégalités intra-groupes, c'est-à-dire les inégalités qui vont séparer, on va dire, un polytechnicien qui a tel âge et qui a tant d'expérience, le plus haut et le plus bas, eh bien, vont connaître, eux aussi, une augmentation des inégalités de même ampleur que celle qui va séparer, on va dire pour simplifier, les inégalités ou les ingénieurs des arts et métiers, puisqu'on y est, du reste de la population. Au sein de chaque groupe, les appariements vont jouer un rôle sélectif tout aussi fort qu'ils vont le jouer d'un groupe à l'autre. Une autre manière aussi de comprendre la montée des inégalités dans le monde d'aujourd'hui, et je pense que je vais conclure là-dessus, c'est de dire que du point de vue de la société de consommation elle-même, au cours du XXe siècle, l'idéal productif était un idéal essentiellement égalitaire. Lorsque Ford conçoit ses automobiles, il conçoit un modèle d'automobile, la Ford T, puis la Ford A. Mais c'est une automobile et l'ambition du manager qu'il est, c'est que cette automobile soit progressivement consommée par tout le monde. Quand on regarde la société de consommation jusque vers la fin des années 60, quand on pense les inégalités à l'index de cette société de consommation, on la pense en termes d'années de retard d'une classe sociale par rapport à une autre. On dit, les ouvriers sont, non pas plus pauvres que les cadres, ils le sont naturellement, mais on dit, les ouvriers, à l'époque, on dit, les ouvriers ont 10 ans de retard sur les cadres, par rapport, par exemple, à la télévision. Le taux d'équipement des cadres en télévision, dans les années 50, est le même que le taux d'équipement des ouvriers en télévision dans les années 60. Donc les inégalités sont des inégalités qu'on peut appeler dynamiques, c'est-à-dire que c'est une société inégalitaire, mais un, les inégalités sont fixes, ne varient pas, parce que chacun est inscrit dans une structure sociale très robuste, et deux, ce sont des inégalités dont on peut se dire qu'elles sont transitoires. Je n'aurai jamais le niveau de vie d'un cadre si je suis ouvrier, mais je peux me dire que la voiture qu'il consomme, dans 10 ans, je pourrais me la payer aussi. La télévision, pareil. L'électroménager, pareil. Le téléphone, pareil. Or, la crise dont mai 68 est aussi le signe et le symptôme, c'est qu'à la fin des années 60, la société de consommation telle qu'elle a été envisagée par Ford et disons tout simplement par les grandes sociétés de la production de masse du XXe siècle, est parvenue à son terme. Tout le monde a, à peu près en France, un téléviseur. Tout le monde va avoir, bon, dans le cas du téléphone, ça sera un petit peu plus tardif en France, un téléphone. Tout le monde va avoir une automobile. Cette marche à la généralisation d'un type de consommation à l'ensemble de la population s'interrompt à la fin des années 60 parce qu'elle a accompli son mandat. Eh bien, l'envers de cette montée des inégalités liées à la déstructuration du modèle fordiste, du modèle tayloriste dont j'ai parlé un instant, ce qu'on associe à la société de l'information, c'est aussi la marque que cette société de consommation fondamentalement égalitaire dans sa nature a également touché ses limites. La société de consommation aujourd'hui, ça n'est pas une société où de nouveaux biens de consommation viendrait creuser un nouvel écart qui dynamiquement serait résolu entre les plus riches et les plus pauvres, c'est une société de consommation qui tout d'un coup clôt l'espace des biens pour l'essentiel. Pour l'essentiel, on continue de consommer les mêmes choses que dans les années 50 et 60, des automobiles, des téléphones, des téléviseurs. Simplement, les inégalités sont devenues statiques et non plus dynamiques, si on veut le dire comme ça. Les plus riches consomment des BMW, les plus pauvres consomment des Clio, mais il n'y a plus autour du même bien de consommation, une marche dynamique qui pourrait permettre aux plus pauvres de penser qu'ils vont rattraper les plus riches. En d'autres termes, ce que la société de l'information permet de faire aujourd'hui, c'est moins d'inventer de nouveaux biens, même s'il y en a d'autres, l'ordinateur, on fait joujou, bon, tout ça est très sympathique, des consoles vidéo, c'est moins de réinventer de nouveaux biens que de permettre au sein de chaque bien de s'ouvrir un nouvel espace de consommation sur mesure, où chacun va pouvoir, contrairement à ce qui se passait au XXe siècle, avoir un produit de consommation qui est parfaitement filtré pour correspondre à ses caractéristiques socioculturelles. Donc la télévision, il y aura du câble où chacun va pouvoir aller se loger, les voitures auront elles-mêmes tel et tel axe, le téléphone, même chose, les vacances, les loisirs, eux-mêmes pourront être différenciés en fonction des besoins, des richesses, des ressources et des affinités des gens. Et donc la société de consommation, qui d'une certaine manière était une société faite par les producteurs pour le plus grand nombre au XXe siècle, devient une société où le consommateur va pouvoir valoriser, mobiliser ses inégalités par rapport aux autres. Et donc la société de consommation va clore en quelque sorte ce moule inégalitaire en le redoublant. Et donc on peut dire que d'une certaine manière aujourd'hui, en même temps que l'illusion de la production de masse, enfin pas l'illusion d'ailleurs, la force de frappe de la production de masse a produit tous ses effets, eh bien nous entrons dans un nouvel âge où la société de l'information va, jusqu'à un certain point, aviver les tentations inégalitaires de nos sociétés.
Merci. Je crois qu'il y a beaucoup de questions, on va commencer. Merci. Tout de suite.
Oui, je voulais revenir un peu sur la question de l'émergence des nouveaux pays industrialisés, en particulier. Je voulais revenir simplement sur la question de l'émergence des nouveaux pays industrialisés dans les années 60, ou même revenir à la...
Collez votre micro à la bouche, là, vraiment,
donc,
comme un chanteur.
Je voulais vous poser simplement une question concernant l'émergence d'un certain nombre de pays et le fait que vous ayez rattaché l'émergence des nouveaux pays industrialisés, par exemple, à leur ouverture économique au monde. Simplement, donc, en ce qui concerne le premier pays qui a servi un petit peu de modèle, qui est donc le Japon pour les NPI d'Asie. Donc, je pense que, d'une part, le fait qu'il se soit ouvert au monde correspond aussi donc, à une histoire, donc une histoire du Japon après donc, la défaite du Japon donc, en 1945, l'occupation du Japon par les Américains, le fait que donc, la constitution japonaise soit une importation donc, des États-Unis, etc. Ensuite, donc, l'ouverture donc, au monde du Japon, on sait qu'elle s'est faite aussi avec un certain protectionnisme à côté. Donc, il y avait un marché de consommation intérieure qui a servi quand même de base au développement de l'économie donc, japonaise. On sait que jusqu'aux années, début des années 90, hein, donc, il y a eu un débat autour du protectionnisme japonais. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que est-ce que l'ouverture véritablement donc, au monde, sans me faire le chantre du protectionnisme pour autant, mais est-ce que l'ouverture donc, au monde suffit donc, à elle seule pour offrir un modèle de développement, quoi?
Alors, la réponse à la question telle que vous venez de la formuler est évidemment non. J'ai essayé au contraire de dire que derrière la réussite des pays asiatiques, il y avait en fait des fondamentaux extrêmement solides qui étaient ce double processus d'accumulation de capital matériel et de capital humain. Mais pour aller dans le sens de votre question, il est certain que quand on parle d'ouverture de ces pays, et incluant le Japon, vous avez tout à fait bien entendu raison de le faire, d'ouverture des quatre dragons et du Japon, on parle de choses qui sont très hétéroclites. Quand on parle d'ouverture, je crois que le plus simple, c'est de dire que ce sont des pays qui ont fait d'une stratégie de développement de leurs exportations un des axes de leur développement industriel. Ayant dit ça, naturellement, il y a de grandes variations d'un pays à l'autre en ce qui concerne les politiques d'importation. Des pays comme le Japon, vous avez tout à fait raison de le dire, et la Corée ont été, d'une certaine manière, des pays qui, à l'entrée, ont freiné le libre-échange. À l'inverse, Taïwan et Hong Kong et Singapour ont été très ouverts à l'entrée et à la sortie, si je puis dire, à l'exportation et à l'importation. Donc, pour dire les choses simplement, ça n'est pas tellement la stratégie à l'entrée qui semble importante, c'est la stratégie à la sortie, c'est-à-dire les exportations. Alors, pourquoi ? Alors, il y a deux écoles. L'une, c'est de dire que lorsqu'on fonde sa croissance sur les exportations, on permet de faire jouer la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'activités où on est très bon sont bien payées, et voilà pourquoi il vaut mieux faire ça que d'autres. Plus simplement, ce qui est aussi très important, c'est que quand on a une stratégie où, au bout du compte, ce sont les exportations sur le marché mondial qui vont être l'index de la croissance économique, d'accord ? Alors, ça veut dire qu'on soumet la stratégie de croissance à un arbitre, un verdict, qui est le marché mondial. Le marché mondial qui donne, d'une certaine façon, un index d'un rapport prix-qualité avec lequel on ne peut pas jouer. Donc, des pays comme la Corée ont été des pays très protectionnistes, très interventionnistes. Ils ont construit des grands groupes industriels où la main de l'État était très puissante, toujours derrière. Mais quel qu'ait été le rôle de l'État, au bout du compte, le verdict, c'était la capacité de vendre cette production à un certain prix sur le marché mondial. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas tricher. Prenez l'exemple de l'ex-URSS. On a eu un gros effort de capitalisation au double sens que j'ai dit. Très gros effort de scalarisation, très gros effort d'accumulation matérielle, les grands plans industriels, etc. Mais il n'y avait pas de verdict qui était le marché, qui fait que le marché était une plaisanterie. En fait, le vrai marché qui fonctionnait, c'était le marché noir, animé par des mafias qui aujourd'hui ont pris le pouvoir en Russie. Mais il n'y avait pas de verdict. Vous fabriquiez des tracteurs, ils ne marchaient pas. Bon, voilà, on ne va pas recommencer les 1000 anecdotes qui ont existé à l'époque sur l'économie soviétique. Eh bien, le marché est un juge de paix des stratégies de développement. Et quand on prend l'exemple de la Chine aujourd'hui, on est assez stupéfait comme économiste de voir que le taux d'ouverture de la Chine est équivalent au taux d'ouverture de la France, c'est-à-dire le rapport exportation sur production intérieure est proche de 20% en Chine. C'est un chiffre, quand on y réfléchit, qui est extravagant, parce que la Chine est un tellement gros pays que, normalement, il ne devrait pas exporter autant que la France, qui est un beaucoup plus petit pays en termes de population. De même que les États-Unis exportent beaucoup moins que la France, non pas parce que c'est une société moins ouverte, mais parce que c'est une société qui trouve à l'intérieur de quoi faire qu'on n'a pas besoin d'importer. Quand les économistes se sont tournés sur les raisons pour lesquelles le taux d'exportation chinois était aussi élevé que celui de la France, ils ont compris en réalité que les provinces chinoises, elles-mêmes, très souvent, commerçaient entre elles via le marché mondial, c'est-à-dire bien souvent en fait via Hong Kong ou via même Taïwan. C'est-à-dire au lieu de vous vendre directement des soieries, je vais les vendre à une filiale de Hong Kong qui va vous les revendre à vous. Pourquoi c'est très important ce détour qui, d'une certaine façon, s'apparenterait à un commerce interne? C'est très important parce que le transit par le marché mondial fait que vous êtes, comme producteur interne, soumis à des règles de prix et de qualité qui vous mettent en concurrence avec d'autres et qui, donc, d'une certaine façon, font que vous ne pouvez pas tricher. Eh bien, les pays riches, pour construire un marché au sens, disons, authentique du terme, ont mis plus d'un siècle. Un marché, comme diraient les sociologues, pour le coup, c'est une construction sociale, historique, ça ne s'improvise pas. Il faut des prix, il faut du commerce, il faut toutes sortes de relais institutionnels qui donnent au marché une épaisseur historique qui lui permette de jouer ce rôle de médiateur entre les producteurs et les consommateurs. Eh bien, le passage par le commerce mondial jusqu'à un certain point, bien entendu, puisqu'il faut aussi un marché intérieur pour qu'au bout du compte, ces productions trouvent des débouchés, évidemment. Mais jusqu'à un certain point, le marché mondial a dispensé ces pays de cette longue construction historique et on fait qu'il a joué, dans le cas par exemple chinois, ce rôle d'arbitre beaucoup plus que ce rôle que Ricardo lui attribuerait, vous voyez, en termes d'avantages comparatifs. Donc voilà pourquoi le marché est à la fois très important. Et en même temps, du point de vue quantitatif, vous pouvez parfaitement dire, mais est-ce que c'est si important d'exporter tant de richesses aux autres pays pour pouvoir se développer?
Une autre question peut-être. Je vous demande d'être bref pour votre question.
Une question rapide. Sur l'inégalité même, ne croyez-vous pas que parfois il y a le poids de certaines religions qui font qu'une partie de la population est totalement analphabète et ne peut pas acquérir certaines connaissances?
Je ne sais pas, quand on prend, par exemple, au sein de l'Asie, l'éventail de religions qui existent entre l'Indonésie musulmane, la Malaisie qui est mixte et la Thaïlande qui ne l'est pas, il est très difficile, jusqu'en 1997, de faire une différence entre les stratégies de croissance de ces pays et leurs religions. De la même manière, au sein de l'Afrique, les régions musulmanes et les régions catholiques, il n'y a pas de différence massive. Alors évidemment, si on prend Afrique et si on prend le Moyen-Orient et qu'on le compare à l'Asie, on va dire le poids d'islam par exemple est important par rapport à d'autres. Mais c'est pas ça qu'il faut faire évidemment. Il faut prendre des régions qui sont proches géographiquement les unes des autres, donc qui ont jusqu'à un certain point la même histoire, et au sein de ces régions, voir si oui ou non la religion est un facteur discriminant. Et quand les économistes évidemment se sont posé cette question tout de suite, il n'y a aucune raison de ne pas se la poser. Après tout, ça ne serait pas grave si c'était le cas. Il vaut mieux, comme disait Sophie en introduction, savoir qu'ignorer. Eh bien, en testant ces choses-là, en contrôlant par ce que j'ai dit, ça ne marche pas. Le principal facteur pour un économiste explicatif de la croissance d'un pays, c'est la croissance de ses voisins. C'est en contrôlant, une fois qu'on a contrôlé, naturellement, pour le commerce, une fois qu'on a contrôlé par toutes les choses que la proximité, disons, pourrait expliquer directement. C'est les voisins. On fait un peu comme ses voisins. La France a été en retard sur la révolution industrielle anglaise. Elle a fini par la rattraper. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont traversé la Manche, parce qu'on avait sous les yeux ce que le rival éternel était en train de faire. On a fait pareil, on a fait la best practice, comme on dit. Il y a une dimension dans la proximité qui est très importante, qui échappe au raisonnement économique. Parce qu'encore une fois, évidemment, les économistes qui ont testé le rôle de la proximité dans les facteurs de croissance ont aussi contrôlé par le commerce entre différentes nations. Mais ça n'est pas le commerce. Stricto sensu, je rejoins pour le relativiser ce que je disais sur le commerce mondial aussi, ça n'est pas le commerce stricto sensu qui explique ce facteur de proximité. C'est d'autres choses. C'est d'autres choses qui tiennent au fait que, pour l'essentiel, ce qui fait la croissance, c'est de l'immatériel, c'est la croyance dans un certain type d'organisation du travail. On voit que ça marche d'organiser les usines de cette façon. On le voit, il y a des gens qui commercent, qui voyagent, qui le voient et qui l'importent. Et donc, ce facteur de proximité est infiniment plus important que le facteur de religion, et des nations voisines et de religions différentes vont faire beaucoup plus sûrement la même chose que des nations de même religion et éloignées dans l'espace.
Il y a un monsieur au premier rang, là, qui avait une question.
Oui, bonjour, monsieur. Deux petites remarques et ma question. Très rapidement. Bon, pour lutter contre la paupérisation de l'hémisphère sud par rapport au nord, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'avais lu dans Libé qu'il y avait eu un projet de développement pour le sud de l'Égypte. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ils veulent recréer dans le sud de l'Égypte ce qu'ils avaient créé jadis il y a des millénaires dans le nord. Et ça avait donné la civilisation. Et c'est très bien, c'est par rapport à ça. Ma deuxième remarque, c'est que par rapport à l'informatique, Apple a été créé en 1976, mais n'empêche que moi je vous signale qu'en 1976, il y avait eu une alliance en France entre la C2I, Onéo et les Bulles, parce que la C2I existait bien avant, c'est à la fin des années 60. La première cellule informatique a été créée par une filiale de Thomson qui s'appelait la Sperac. Ensuite, c'est devenu la Compagnie internationale pour l'informatique, puis la C2I, Onéo et Bulles, et qui maintenant s'appelle Bulles, 100% français. Merci pour eux. Et ça, c'est introduit.
Votre question, monsieur.
Oui, j'y arrive. Ma question est très simple. C'est que pour lutter contre les inégalités, qu'est-ce qui est le plus efficace, d'après vous? Le code civil, les libertés publiques ou bien les droits de l'homme?
Ou bien les droits de l'homme.
Merci.
Et pourquoi est-ce qu'il faudrait les hiérarchiser? Je pense que... Oui, mais vous prenez une société qui, a priori, obéit à tous les critères démocratiques que vous voudrez, les États-Unis dans les années 80, ça n'a pas empêché une énorme montée en puissance des inégalités, des sociétés. Bon, donc le lien, enfin, je réinterprète votre question de la manière suivante, quel est le lien entre, on va dire, la démocratie, la croissance économique et la réduction des inégalités? On aimerait penser que les sociétés démocratiques sont des sociétés qui résistent davantage que les autres la montée des inégalités. Si on inclut les États-Unis dans la démocratie, c'est quand même la moindre des choses, on voit que ça n'est pas le cas. En revanche, est-ce que le développement économique est un facteur qui débouche nécessairement sur la démocratie? Ça, c'est une vraie question. À ce jour, on peut dire que la réponse semble être que oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de nations qui, devenant prospères, n'entrent pas dans le moule de la démocratie. Pourquoi est-ce que cette relation serait nécessaire? On a mille raisons de comprendre pourquoi. Parce que dans une société capitaliste avancée, l'autonomie des acteurs, le fait que ce qui fait la force et la faiblesse du capitalisme, c'est qu'il n'y a pas d'institution imposée, il n'y a pas, si vous voulez le dire autrement, de hiérarchie nécessaire autre que celle que le marché produit, une société comme celle-là, comme disait je ne sais plus quel auteur, est forcément dégagée du théologico-politique habituel, c'est-à-dire que c'est une société qui, au fond, est appelée à se méfier des pouvoirs constitués. On peut dire qu'il est normal que ça débouche sur une société démocratique. On n'imagine pas une société autoritaire où tout est soumis au principe de concurrence et de libre entrée, sauf le pouvoir politique. C'est assez difficile de l'imaginer. Donc, je pense que oui, on peut dire que le capitalisme, à terme, porte en germe forcément une aspiration démocratique. Est-ce que cette aspiration est nécessairement nourrie, remplie? Alors là, ça, c'est bien entendu tout à fait autre chose. Pour prendre l'exemple auquel tout le monde pense aujourd'hui, est-ce que la Chine, aujourd'hui, qu'elle est rentrée ou qu'elle va rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce, est-ce qu'elle va s'ouvrir aux droits de l'homme? Est-ce qu'elle va devenir démocratique? Je disais sans doute qu'à la fin du XXIe siècle, on peut penser que le XXIe siècle sera celui qui verra la résorption des inégalités entre les nations. La Chine deviendra presque certainement la plus grande nation industrielle du monde. Est-ce qu'elle deviendra une nation démocratique? Moi, je pense qu'on peut faire ce pari. En vertu de ce que j'ai dit, parce que le capitalisme porte en lui la remise en cause de toutes les autorités constituées, puisqu'il a en son cœur le principe de concurrence. Donc il ne peut pas établir que les institutions qui existent doivent perdurer. C'est un pari, je ne peux pas en dire beaucoup plus.
Je vois une autre question là-bas, monsieur.
Oui, plutôt que d'essayer de mettre en opposition des nations, vous avez parlé essentiellement de nations, je vois un autre critère de distinction qui est celui de distinguer ceux qui sont branchés de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont branchés à un réseau d'eau, à un réseau d'électricité, à un réseau d'assainissement, à un réseau bancaire, à un réseau téléphonique ou à un réseau Internet, et ceux qui ne le sont pas. En gros, un tiers de la population mondiale est branchée à ces réseaux. Ils sont plutôt urbains, plutôt deux tiers non branchés, qui sont plutôt des ruraux, des périurbains. Et la grande fracture qui me paraît être la fracture essentielle, c'est celle-ci. Il y a des pôles de richesse dans des pays pauvres qui sont branchés et ils sont au même titre de développement que les pays les plus riches d'entre nous, que ce soit en Chine, au Brésil.
Et cette distinction me paraît fondamentale. Et il me semble que cette fracture, alors c'est toute une analyse à faire, cette fracture va-t-elle s'agrandir ou va-t-elle se réduire? J'aurais tendance personnellement à dire, juste une phrase, que l'accumulation des capitaux dans la zone riche a tendance à chercher de nouveaux consommateurs dans la zone pauvre et que cette fracture devrait se réduire, à l'exception peut-être de l'Afrique, qui sera exclue et qui est déjà exclue et qui est déjà abandonnée par le reste de la planète.
Ah, c'est bien, vous avez posé la question et donné la réponse, donc j'ai pas grand-chose à dire, sinon que je suis à peu près d'accord avec vous. Bon, pour le redire en d'autres termes, est-ce que la montée en puissance des pays pauvres comme nations industrielles, au sens statistique du terme, hein, un périmètre qui est défini par la comptabilité nationale, s'accompagne nécessairement ou pas, ou est-ce que ça n'a aucun rapport, avec une montée des inégalités au sein de ces nations pauvres? C'est une question très franchement très ouverte, c'est-à-dire que quand on regarde les pays asiatiques dont je parlais, la croissance économique des années 50, 60, 70 s'est accompagnée d'une réduction des inégalités au sein de ces nations. Le cas de la Corée est particulièrement flagrant, et j'ajoute, je le disais dans ma présentation tout à l'heure, que de faibles inégalités au sein de ces nations est non seulement une chose que le développement économique ne gêne pas, mais qui sans doute est un facteur favorable à la croissance économique. C'est l'exemple de la Corée et des Philippines que je disais tout à l'heure. On comprend qu'en fait, des sociétés égalitaires ont un avantage compétitif par rapport aux sociétés inégalitaires dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Alors, ce diagnostic qui donc permettrait de dire formidable, très bien, les pays pauvres peuvent s'enrichir en réduisant leurs inégalités, il est mu, je dirais, à la même enseigne que celle qui faisait craindre que les nations riches deviennent plus inégalitaires du fait du commerce mondial. Puisque la théorie des avantages comparatifs nous dit que là où les pays pauvres peuvent prospérer, c'est là où ils ont un avantage comparatif, et c'est donc dans leur propre pauvreté. C'est donc les plus pauvres dans les pays pauvres qui vont être les vecteurs de la croissance de ces pays, puisque c'est eux qui, étant les plus pauvres, vont pouvoir vendre le plus facilement leurs produits aux nations les plus riches. Donc, autant les pays riches peuvent craindre jusqu'à un certain point la concurrence des pays pauvres, du point de vue de leurs inégalités, autant les pays pauvres eux-mêmes ne devraient pas le craindre, puisque c'est leur segment le plus pauvre qui va prospérer. Alors, ce diagnostic qui serait rose est malheureusement pas si simple, pour les raisons que vous avez suggérées. Quand on prend des pays intermédiaires, comme l'Amérique latine, enfin des régions intermédiaires en termes de revenus par habitant, comme l'Amérique latine, le verdict est beaucoup plus nuancé. On voit une montée des inégalités accompagner la croissance de ces pays. Donc, de fait, il y a un risque inégalitaire dans ces nations. Est-ce que cette nouvelle révolution industrielle dans laquelle on est aujourd'hui va accroître ce risque en vertu de cette société en réseau qui fait que la géographie pèse moins lourd qu'elle ne pesait avant? C'est un risque, évidemment, qu'on ne peut pas exclure. On ne peut pas dire qu'il se soit déjà matérialisé. Au vu des statistiques, ça serait plutôt le contraire, encore une fois. Mais c'est un risque, il n'y a pas de raison de le nier. On peut imaginer, dans le cas de l'Inde, par exemple, des régions très connues, comme le Bangalore, où il y a une très forte production informatique, être en réalité des satellites de la Californie au détriment des autres. C'est un risque réel. La société de l'information, pour les raisons que j'ai dites pour les pays riches, vaut aussi pour les pays pauvres, et les expose au risque inégalitaire. Mais encore une fois, je crois qu'on peut dire qu'à ce jour, mais c'est trop tôt pour juger des effets de la société d'information, bien sûr, mais le commerce mondial n'est pas associé à une montée des inégalités en moyenne dans les pays les plus pauvres.
J'ai encore, je crois, deux questions. Je crois qu'on n'ira pas beaucoup plus loin, monsieur.
Oui.
Pardon. Du sud.
Monsieur.
Oui, vous avez parlé à plusieurs reprises de la crise de mai 68. Il me semble que la crise de mai 68 est nettement moins importante que la crise qu'il y a eu en 39-45, c'est-à-dire à la Deuxième Guerre mondiale, qui a complètement révolutionné, je veux dire, qui a redistribué les cartes. Depuis, il n'y a pas eu de redistribution des cartes. Il y a au contraire une fixation d'un ascenseur social qui ne marche plus. Et dans la nouvelle économie, on voit exactement la même chose. On voit peu d'ouvriers qui deviennent millionnaires. Si on projette ça à l'avenir, on voit effectivement un creusement des inégalités avec, je ne sais pas, là, une vraie révolution derrière.
C'est-à-dire que je comprends ce que vous dites. Je veux dire, l'importance sociale, politique et même générationnelle de la Seconde Guerre mondiale était beaucoup plus forte que l'avènement de mai 68. Bon, il ne s'agit pas de faire des comparaisons, mais disons, du point de vue du paradigme productif dominant au cours du XXe siècle, on ne peut pas dire que la Seconde Guerre mondiale ait changé l'idée qu'on se faisait de l'organisation du travail. D'une certaine façon, après la Seconde Guerre mondiale, le business a repris là où on l'avait interrompu, on va dire pour simplifier, avant la crise de 1929. Bon, c'est particulièrement clair dans le cas américain. Les cas américains, le début du XXe siècle, c'est la montée en puissance de cette ère de la production de masse, du travail à la chaîne dont j'ai parlé. C'est interrompu en réalité par la crise de 1929. En 1945, on reprend exactement avec les mêmes techniques. Dans le cas de la France, c'est encore plus flagrant. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on va en réalité entrer de plein pied et à toute vitesse dans le modèle industriel du début du siècle. On fabrique des voitures dans les années 50 et 60 exactement comme on en fabriquait selon les mêmes principes d'organisation du travail que ceux qu'on avait pensé en réalité à la veille de la Première Guerre mondiale. Mai 68 a des similarités, c'est une nouvelle génération qui vient aux affaires. Donc d'une certaine manière, vous avez raison, il y a un relais qui est sans doute moins important de ce point de vue-là que la Seconde Guerre mondiale, mais la différence c'est que cette génération, elle induit une nouvelle révolution industrielle, elle change le paradigme productif et elle provoque cette nouvelle montée des inégalités en sortant de l'ancien monde industriel. Donc je pense que du point de vue du renouvellement des générations, hein, si c'est ça que dont vous voulez parler, je crois que vous avez raison, la Seconde Guerre mondiale a renouvelé les générations d'une manière plus dense, elle a rebattu les cartes de façon plus significative que ne l'a fait la génération de mai 68, qui en effet a rebattu les cartes, mais en fonction des dotations initiales des différentes personnes. Donc ce n'était pas tellement une redistribution dans le sens qu'on entend habituellement. Mais du point de vue de l'ombre portée sur le type d'organisation industrielle, je pense que c'est beaucoup plus l'effet est beaucoup plus important. C'est, comme je dis, une nouvelle révolution industrielle, alors que l'autre était simplement une radicalisation, une généralisation d'un monde industriel qui avait déjà été pensé.
Comment expliquez-vous qu'aux États-Unis, la croissance économique est très forte
je regardais quelqu'un qui
est derrière. La population active est concentrée dans les services, alors que les inégalités depuis 10 ans n'ont pas cessé d'augmenter.
Attendez, pardon, vous pouvez reposer la question, excusez-moi.
Je vous posais la question, ouais. Pourquoi aux États-Unis, alors qu'il y a une croissance plutôt importante depuis pas mal d'années, la population active se concentre donc dans les services, pas dans l'industrie, dans les services, il y a une augmentation des inégalités. Est-ce que ce n'est pas une question aussi de répartition des richesses?
Alors, derrière cette question, évidemment, se joue la question de savoir qu'est-ce que c'est que produire de la richesse aujourd'hui. Pendant très longtemps, on était convaincu, en effet, qu'être productif, c'était produire des biens industriels, des biens qu'on allait consommer. Aujourd'hui, on voit que la participation des services à la production des biens est très importante, elle est même, d'une certaine façon, essentielle. Alors, il y a d'abord deux choses pour répondre à cette question. La première, c'est que derrière la montée des services, il y a la montée d'un phénomène d'externalisation qui masque en réalité une vérité qui a toujours existé, à savoir que dans les industries, dans les entreprises elles-mêmes, au sens traditionnel du terme, il y avait toujours des comptables, il y avait toujours des concepteurs de publicité. Bon, tout a été externalisé en principe, en vertu du nouveau principe de l'organisation industrielle d'aujourd'hui, à savoir que chaque tâche doit être clairement identifiée et séparée, y compris au niveau des autres. Donc la montée en puissance de la tertiarisation est pour partie une illusion statistique. Pour partie aussi, elle traduit la montée en puissance de cette nouvelle société de consommation dont je parlais, qui est une société de consommation sur mesure, beaucoup plus inégalitaire dans la façon même dont elle conçoit les produits que n'était celle d'avant. Alors, est-ce que, c'est ça qui permet, est-ce que c'est cette montée de la tertiarisation qui permettrait toute seule d'expliquer la montée des inégalités ? Pourquoi pas ? On peut le dire comme ça. À partir du moment où on est dans une société plus tertiarisée que par le passé, eh bien, on est forcément dans une société où le rapport, bon, pour prendre les services au sens maintenant tout à fait traditionnel du terme, le rapport interpersonnel est beaucoup plus important. Si une société de service est une société d'éducation, si une société de service c'est ce qu'on est en train de constituer aujourd'hui, c'est-à-dire, je vous parle, on est dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'industriel, mais qui est de l'ordre du rapport direct ou vaguement médiatisé entre une personne et d'autres, peut-être qu'en effet, cette société elle-même est plus inégalitaire intrinsèquement qu'une société où les médiations interpersonnelles se faisaient par des objets qui ont tous vocation naturellement à être plus ou moins de même nature. Je ne sais pas si je réponds à votre question exactement. Les inégalités, la croissance... Oui, Mais là, alors bonjour, excusez-moi, donc le lien entre les inégalités et la croissance, c'est un lien complexe, parce que quelle est la cause de la croissance économique? La cause de la croissance économique, pour le dire simplement, c'est deux choses. C'est des technologies et une certaine organisation du travail qui permet de les concevoir. En soi, les technologies, on peut dire, sont neutres. Pourquoi la machine à vapeur serait plus ou moins inégalitaire que l'électricité? D'ailleurs, une parenthèse, quand l'électricité a été inventée, les gens ont pensé que ce serait la revanche des petits artisans. Parce qu'ils disaient, avec l'électricité, tout le monde aura désormais accès à une source d'énergie bon marché qui retirera aux grands établissements qui mettaient les machines à vapeur au centre de son activité leur avantage comparatif. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que ce principe technologique s'est greffé sur une organisation du travail qui, lui, a dû absorber la réalité sociodémographique dont je parlais. Donc, la croissance, c'est des technologies et une organisation du travail. On peut dire que c'est le type d'organisation du travail qui est le moteur des inégalités, beaucoup plus que la technologie. Donc, aujourd'hui, on a un type d'organisation du travail qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus interactif que n'était l'ancien, et qui donc donne prise à une montée des inégalités. Donc on peut avoir une très forte croissance parce que l'hybridation technologie et organisation du travail est très productive, et pourtant, en son cœur, le type d'organisation du travail et le type de société de consommation qui est en vis-à-vis, lui-même, peut devenir très inégalitaire. Donc il n'y a pas de lien nécessaire, il y a des liens circonstanciels. On a vu au cours du XXe siècle un lien du genre de celui que j'ai décrit tout à l'heure, qui était plutôt égalitaire, hiérarchique et égalitaire. Aujourd'hui, c'est plutôt libertaire et inégalitaire, si vous voulez le dire comme ça.
Bon, je crois qu'on va prendre la dernière question, madame.
Oui, en fonction de ce dont on a parlé jusqu'à présent, quelle part feriez-vous à la globalisation et au contact avec le commerce et la finance internationale dans l'effondrement économique de l'URSS et de ses pays satellites?
Je pense que, bon, évidemment, ça a été un catalyseur, mais j'ai donné, disons, la prémisse d'une réponse tout à l'heure. Je crois que l'URSS, en réalité, n'a pas découvert les mafias avec la chute du régime soviétique. En réalité, enfin, tout le monde le sait, les mafias étaient déjà là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a des mafias géorgiennes, arméniennes, azéries, etc. Ce sont des groupes qui s'étaient constitués dans les années 50 et 60 comme aliment de la croissance de cette période, comme aliment de la croissance à cette époque-là, et qui ont été en effet totalement libérés par l'effondrement de l'État soviétique. L'URSS aujourd'hui est confrontée à des problèmes qui, par certains aspects, rappellent les problèmes de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance sans des institutions solides qui permettent en effet d'être le relais de ce que, par ailleurs, le marché permet de faire. S'il y a une leçon que l'histoire a enseignée mille fois, c'est bien celle-là, c'est que le marché libre est une fiction tout autant que l'État libre, et qu'il manque l'un ou l'autre, et quelque chose manque. Je termine par cet exemple que j'ai déjà donné, je crois, deux fois, Corée et Philippines. La Corée a réussi une croissance économique extrêmement forte parce qu'elle a réussi à se doter d'institutions publiques, santé, éducation, qui ont relayé, encouragé le développement économique. C'est ce qui manque à l'URSS d'aujourd'hui. Et évidemment, la question de savoir si on arrivera à résorber rapidement ce problème, maintenant que d'autres groupes très puissants ont eu le temps de se constituer et que sont ces différentes mafias, est évidemment une question aussi difficile que celle qui consisterait à répondre à la question de savoir est-ce que l'Afrique arrivera à renouveler ses élites, comme nous-mêmes on l'a fait après la Seconde Guerre mondiale ou après mai 68, d'une manière qui leur permette d'œuvrer un peu plus au bien public qu'ils ne le font aujourd'hui. C'est une question que je vois comme totalement ouverte, malheureusement.
Eh bien, je crois qu'il est temps de terminer.